Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air Diwa et c'est l'heure de l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc Andiwa. Aujourd'hui, nous sommes au studio avec monsieur Jean-Louis Clément. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Clément, vous êtes ici pour nous parler d'une parution, un livre qui s'intitule « La corruption des regards ». C'est édité au Pas de l'Homme, l'édition Le Pas de l'Homme, une maison d'édition de Die. Et pour vous, il s'agit de revoir un petit peu ce patrimoine culturel, cultuel peut-être aussi, de notre société et peut-être aussi de pouvoir tourner une page en quelque sorte.
Oui, je pense que en fait, ce livre va représenter la fin d'un cycle. Et j'ai essayé de théoriser en fait ce cycle et de le comprendre, de lui donner une date de départ. Et je pense qu'à partir du moment où nous donnons aux événements une date de départ, c'est qu'on se rapproche de la date de fin.
Par rapport à vos précédentes venues sur Air Diwa, pour nous présenter d'ailleurs une exposition d'une artiste en art brut, ensuite une exposition autour de Béatrice de Die et d'une histoire d'amour avec un chevalier dont vous me rappellerez le nom. Et je voulais savoir si cet ouvrage, donc La corruption des regards, était en quelque sorte un cheminement logique de vos propositions successives.
Oui, en effet, la période des troubadours correspond à la fin d'une période pour l'humanité, l'humanité européenne, de grande liberté. Et à cela succédera la période, le cycle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le cycle de la corruption des regards, avec la naissance de cette tragique histoire qui nous mine encore les esprits et les relations sociales, et qui commence à peu près en 1215 avec le Concile du Latran. Donc elle a une origine essentiellement religieuse, culturelle, mais très vite, elle donnera des ailes à la royauté ce sera un continuum pratiquement jusqu'à la Révolution française. La Révolution française marque la première grande rupture de la société avec la corruption des regards. Donc je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il faut préciser pas mal de choses pour bien comprendre l'ensemble.
Je résume en quelque sorte ce que j'avais déjà évoqué au début. C'est donc, en résumé, la corruption des regards remet en question frontalement l'habitude contre nature de l'obéissance sans discernement héritée des siècles passés. Alors pour vous, est-ce que aujourd'hui, c'est peut-être le moment propice, comme vous le disiez, de cette page à tourner ?
Il n'y a pas de moment propice. Je crois que plutôt les conditions sont pourrissantes. Ceci étant, il faut bien comprendre les choses. Et à partir du moment où vous comprenez le cheminement, les tenants et les aboutissants, je pense qu'on a effectivement aujourd'hui la possibilité de nous en délivrer définitivement. Il faudrait d'abord, pour commencer, si vous voulez, c'est l'objet de mon ouvrage, l'objet de mon ouvrage, définir ce qu'est une image. C'est une question, en fait, d'éducation et de sémiologie. On donne le mot d'image à tout ce qui est sur un écran. Or, pour moi, il faudrait bien utiliser les mots à leur juste place. C'est-à-dire qu'une image n'est pas une représentation fusionnelle. Voilà, je fais une distinction extrêmement importante entre l'image et la représentation fusionnelle. Alors, qu'est-ce qu'une représentation fusionnelle ? En deux mots, c'est lorsque, par exemple, la publicité va vous dire « il faut acheter le produit X parce que ce produit X correspond exactement à votre désir, à votre réalité. » Et si vous ne l'achetez pas, c'est que vous êtes soit un imbécile, soit un ennemi, et on vous traitera comme tel. Donc, il y a, dans la représentation fusionnelle, une représentation sur un écran. Alors, l'écran, ça peut être visuel, ça peut être aussi auditif, ça peut être aussi par écrit, plastique. Donc, la publicité représente une logique binaire entre le bon et le mauvais, et elle est faite pour créer une crise dans le regard de celui qui absorbe la représentation. La crise, c'est est-ce que je suis bon, est-ce que je suis mauvais, est-ce que je vais accepter cette bonté, est-ce que je vais la refuser. Et à partir du moment où vous êtes agressé, parce qu'il s'agit bien d'une agression, la société devient une société d'agression permanente. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Internet en particulier, avec tous les médias modernes. Nous sommes de plus en plus prisonniers de tentatives de nous restreindre à des représentations fusionnelles. Or, l'image, c'est tout autre. L'image, c'est quelque chose qui est traditionnel dans l'humanité et qui correspond à quelque chose qui est indéfinissable, qui n'est pas précis, mais qui permet à l'homme de réfléchir, de prendre une position librement, indépendante, et suivant qui vous êtes, vous aurez une position complètement différente qui sera aussi dépendante de votre propre histoire personnelle, donc de votre psychisme. Voilà.
Pour vous, une image doit pouvoir être comprise par tous ?
Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question d'appréhension. En fait, si vous prenez, je vous recommande le dernier livre de M. Nakache, qui est un très grand neurologue, qui explique que notre cerveau, en fait, fait des choix lorsqu'il perçoit des représentations. Donc, il réagit, il emmagasine des bribes. Et après, à partir de ces éléments disparates, il en construit un film. Ce que Nakache appelle un film intérieur. Et ce film intérieur, ensuite, est retraduit dans une pseudo-continuité dans la vie courante. Voilà. Donc, l'image, suivant les individus, chaque individu va prendre, dans ce qu'il perçoit de l'image, de ce qu'il ressent, il va prendre ce qu'il veut, ce qu'un cerveau choisit, et son film intérieur va restituer une sorte d'image personnelle.
En quelque sorte, l'image sollicite la mémoire.
La mémoire participe effectivement, c'est d'ailleurs Guillaume d'Occam qui l'expliquait très bien. Guillaume d'Occam, qui est du 13e, 14e siècle, le nominaliste, donc le philosophe du nominalisme, qui est un homme génial, dont je parle beaucoup dans mon livre, qui expliquait, si vous mettez quelqu'un devant une statue d'Hercule, et qu'il ne connaisse pas Hercule, ben la statue va peut-être l'intéresser d'un point de vue esthétique, mais ça s'arrêtera là. Par contre, si il y a des références de mémoire historique et culturelle, la statue d'Hercule va lui parler, va lui rappeler beaucoup de choses, ce sera une image.
Aujourd'hui, donc, si j'ai bien compris, vous pensez que le monde de la publicité, via les réseaux Internet, et puis peut-être aussi la propagande, sont de nature agressive envers l'humanité et...
En fait, c'est pas seulement d'aujourd'hui.
Oui, ça, c'est, non, mais c'est pour ça que je parle de propagande.
Oui. Mais je vais préciser la chose. En fait, dès le départ, et ça, il y a beaucoup de penseurs qui ne sont pas allés jusqu'au départ, au point de départ. Moi, je me suis intéressé donc à la théorie de Guy Debord, de la Société du spectacle. Et Guy Debord voulait réaliser d'ailleurs une histoire de la Société du spectacle. Il ne l'a jamais fait, malheureusement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et effectivement, j'ai reculé dans le temps pour en arriver à un point qui m'a paru absolument stratégique, où le point où il y a un avant et un après. Et c'est 1215. C'est très étonnant. Et dès 1215, ce sont des intellectuels de haut vol qui ont mis au point cette manière de prendre le pouvoir sur l'individu par la gestion de la crise permanente. Et c'est au-delà de la publicité, c'est au-delà de la propagande, c'est une manière de prendre le pouvoir. Et cette manière de prendre le pouvoir, où il y a une autorité supérieure, à l'occurrence d'abord le pape, après les rois, après les gouvernements, etc., et la finance internationale, si on veut aller plus loin encore, tous ces gens-là vous asséneront une vérité qui est intangible. Et il est évident que le bon citoyen, tout va être fait pour que le bon citoyen soit celui qui accepte sans broncher. Et le mauvais citoyen, lui, ben, il sera relégué à l'enfer. Enfin bref, on connaît l'histoire.
Voilà, et c'est ce que vous parlez donc d'héritage des siècles passés. Cette construction d'un pouvoir par le biais de certitudes ou de vérités, peut-être, à l'adresse de la population.
C'est-à-dire on demande aux citoyens de voir seulement après avoir... de ne voir que ce qu'il faut voir. Voilà.
Justement, qu'est-ce que vous avez vu, vous, que vous n'auriez pas dû voir ?
Très bonne question. Ben, j'ai vu ce que la méthode. J'ai compris la méthode, si vous voulez. J'ai décortiqué la méthode, si vous voulez. Grâce à une philosophe qui est contemporaine, que tout le monde devrait lire, qui est Marie-Josée Monzin, et qui a créé un institut pour l'image. Et qui, en particulier, a publié beaucoup de livres, dont un « Qu'est-ce que l'image ?» ou « L'image peut-elle tuer ?» L'image peut-elle tuer, oui. Et donc, elle montre que l'image n'a jamais tué personne. Par contre, une représentation fusionnelle qui vit de la crise permanente, mettez quelqu'un dans une crise permanente, il peut débloquer très vite et devenir très violent. Et d'ailleurs, dès le départ, dès 1215, ce régime a compris qu'il ne pouvait vivre que par la censure et par la police de la société. Or, vous avez entendu peut-être aux informations ce matin, M. Macron veut renforcer la gendarmerie. Donc, on est en plein dans le même schéma que 1215, c'est-à-dire la censure, l'inquisition. Et le bon citoyen, celui qui marche sans broncher et qui suit l'autorité de la pensée dominante, lui n'a jamais aucun problème. Par contre, l'autre, celui qui refuse, qui a du sens critique, qui cultive l'image, lui, il a du souci à se faire.
Vous invoquez aussi, ou vous convoquez des auteurs hein, de siècles, de plusieurs siècles, notamment, vous les citez par pair. Et donc, je voulais savoir s'il y avait une importance dans cette présentation, notamment, par exemple, Luther et Calvin. Pourquoi les maîtres...
Non, ça, c'est plutôt mon éditeur qui l'a fait,
ah, d'accord.
Qui l'a rédigé. Non, non.
Parce que là, je voyais aussi Guy Debord et Noam Chomsky, alors, qui sont à peu près de la même époque. Mais oui, oui. Qu'est-ce qui les joint
Ben, c'est-à-dire que là, je mets en parallèle effectivement Guy Debord et Noam Chomsky. En fait, Noam Chomsky, qui est un structuraliste, si vous voulez, Noam Chomsky voit le début de l'aliénation, en guillemets, contemporaine dans les élections américaines des années 30. En fait, Noam Chomsky élimine tout ce qui s'est passé avant et qui, théoriquement, était déjà là depuis 1215. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. Noam Chomsky manque de... Enfin, je ne suis pas d'accord avec lui, quoi, du tout. Et en plus, je dirais, il a des positions humanistes qui sont assez bizarres. En particulier, il voudrait qu'il y ait un plus grand contrôle sur la presse. Mais qui contrôle la presse, déjà, c'est le pouvoir. Donc, il voudrait qu'un pouvoir, quel qu'il soit, contrôle la presse. C'est, pour moi, il est hors de question qu'il y ait un contrôle même démocratique sur la presse.
On peut se poser des questions quand même par rapport au contrôle de l'État sur la presse. Depuis quelques années, il y a une émergence d'une presse plutôt dite d'opinion, mais qui se présente plutôt comme une information, qui propose plutôt une vraie information.
Oui, mais alors là, méfiance. On voit très bien aujourd'hui, d'ailleurs, l'évolution générale de l'opinion publique. Il n'y a plus ni de gauche ni de droite, pour la simple raison que c'est que les gens ont compris que tout ce qui était de gauche n'était pas forcément blanc ni noir. Méfiance. Donc, moi, ce que je propose, c'est une autre méthode. C'est une méthode individuelle de comprendre ce qu'est la corruption des regards et de comprendre qui la pratique et dans quelles occasions. Et à partir de cette méthode que j'ai moi-même expérimentée depuis maintenant 20 ans, je m'en sens beaucoup mieux et je peux me situer dans la société de manière beaucoup plus facile et de plus en plus. Et en plus, je protège mes intérêts personnels quelque part. Donc ce livre est un livre de travail, en fait, de travail sur soi-même pour développer son propre sens critique. Je pense que je me suis décidé à le faire pour cette unique raison.
Vous parlez donc sens critique.
Oui, donc une sorte de ben c'est disons que je fais la part des choses, voilà.
Voilà.
Faire la part des choses.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur une idée auquel vous vous attachez, par exemple, sur ce principe?
Faire la part des choses, c'est lorsque quelqu'un vous assène une vérité bien sentie. Et puis que vous vous retrouvez face à lui, et là, il y a déjà un doute à avoir. C'est est-ce que vous acceptez ou bien vous refusez? Il vous demande d'accepter ou de refuser, et il ne vous laisse pas le choix quelque part. Et c'est à partir du moment où vous sentez que vous n'avez pas le choix de dire oui, mais, parce que l'homme n'est pas fait pour une logique binaire, notre fonctionnement est beaucoup plus large que ça. On est prêt à accepter des logiques ternaires, quaternaires, etc. Et c'est d'ailleurs l'avenir de l'humanité que de reprendre tout ça à zéro. Et voilà. Par exemple, Nakache, dans son dernier livre, L'éloge de la discrétion. J'en parle pas dans mon livre. Oui. Donc Nakache, dans son dernier livre, donc, explique en particulier que la géométrie euclidienne et l'arithmétique, les nombres entiers, c'est complètement faux. C'est pas du tout comme ça que nous fonctionnons. Le 1 plus 2 plus 3, non. C'est une manière de compter les moutons, mais c'est tout, quoi. Bon, oui.
D'ailleurs, vous parlez d'images, là, vous parlez de signes. De signes.
Oui, de signes, bien sûr.
Le signe aussi, est-ce qu'il fait partie aussi de cette corruption des regards?
Il y a des tentatives chez certains sémiologues, j'ai fait un tout petit chapitre là-dessus, de minimiser les oppositions qu'il pourrait y avoir entre la représentation fusionnelle et l'image. Et donc, en fait, tout les oppose. Et je pense même qu'aujourd'hui, jamais, si vous vous jetez, quand vous aurez lu mon livre, vous comprendrez que c'est une lutte à mort aujourd'hui entre les tenants de la pensée unique, si je puis dire, et de la représentation fusionnelle, avec les poètes, par exemple, ou les écrivains, ou les intellectuels, ou les individus qui ont simplement des images, comme par exemple des gens de l'art brut, etc. Donc il y a une lutte à mort qui se déroule sous nos yeux et que nous ne voyons pas, en fait, dont l'issue est extrêmement incertaine, parce que toutes les forces aujourd'hui de ce pouvoir sont engagées avec beaucoup de moyens pour essayer d'éliminer complètement l'image du paysage spectaculaire. Excusez-moi.
Ce que vous dites laisse penser donc que l'image fusionnelle, c'est ça ?
La représentation fusionnelle. Surtout pas image.
Non. La représentation fusionnelle émane en quelque sorte de l'image. Est-ce qu'il y a eu scission, justement ?
Non.
Peut-être de cette osmose au départ de l'action ou du rôle de l'image, et puis ensuite c'est dévié un autre aspect, non ?
En fait, tout s'est joué au niveau de l'Église et de son avenir en 1215, qui était très incertain, et même on donnait l'Église pour perdue complètement. Et ce sont des intellectuels qui ont mis au point de manière extrêmement intelligente et géniale, qui ont étudié l'histoire et qui regardent l'histoire, ont dit là, on peut garder le pouvoir grâce à la représentation fusionnelle. Mais la représentation fusionnelle n'a rien à voir, est opposée directement à l'image. Ce n'est pas un dérivé. Par contre, il fut une époque, c'est ce qu'a étudié Marx.
Ce que je veux dire quand même, c'est qu'à l'origine, il existait l'image. Puis en 1215, effectivement, il y a eu cet aspect-là. Donc, c'est bien ce que je pense, ce que je vous posais comme question, c'est cette représentation fusionnelle émane malgré tout de l'image, comme une scission.
Nous sommes nés avec des yeux, avec des sens, et nous communiquons. C'est ce qu'explique très très bien Guillaume d'Ockham. Et Pierre Alféri, qui a écrit son magnifique ouvrage, Pierre Alféri vient de décéder, malheureusement. J'aurais bien aimé le connaître, d'ailleurs. Eh bien, Pierre Alféri montre bien que Guillaume d'Ockham avait très bien compris l'antagonisme de fond. Et que, bon... Guillaume d'Ockham avait très bien compris que nous procédons tous par concept. Et nos concepts se créent, comme l'esprit Nakash, par des flashs intérieurs. Ces flashs intérieurs viennent des écrans qui nous entourent. Nous ne sommes que le produit de ce que nous voyons et ce que nous sentons. Or, c'est là-dessus que vont jouer les tenants du pouvoir. En essayant de détourner le regard, de le corrompre. C'est bien le titre du livre. Il s'agit de corrompre, mais de corrompre à son propre bénéfice et non pas au bénéfice. C'est-à-dire d'essayer de faire croire, d'essayer de diriger le regard et de diriger le cerveau de ceux qui sont récepteurs dans un sens bien précis qu'eux n'ont pas choisi.
C'est en quelque sorte le rôle du logo.
Le rôle du logo, ben oui, le logo est publicitaire. Ben oui. Il y a tout. la publicité a développé des capacités inventives extraordinaires dans ce domaine-là. Ça ne fait pas avancer d'un pouce l'humanité, ça la fait régresser plutôt, c'est tout. Mais ce sont des découvertes assez géniales. Ils utilisent les propriétés du cerveau, la vitesse des images, le choix des heures du rythme, etc., etc. Mais ça, de toute façon, c'est bien connu, ça. Ce n'était pas l'objet de mon livre.
Et puis le sigle aussi.
Pardon ?
Et le sigle aussi, parfois, la représentation d'un parti politique, notamment.
Mais c'est surtout la manière, comment dire, il faut faire quand même une différence entre le sigle qui est neutre et le sigle qui contient déjà en lui-même tout un contexte de représentation fusionnelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous avez une bouteille de lait, il y a marqué lait dessus, s'il n'y a pas de contenu fusionnel par ailleurs, vous allez acheter une bouteille de lait, basta, avec le logo lait. Alors que ça pourrait être bleu, ça pourrait être rouge, ce n'est pas le problème. Mais le problème, il est, qu'est-ce qui est derrière ? C'est le principe du capitalisme, il faut vendre ce lait plutôt qu'un autre. Et on en est là. Il faut vendre une idée plutôt qu'une autre. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que M. Jacques Delors, par exemple, a très bien compris ça. Or, c'est un chrétien intégriste. Et en 89, lorsqu'il a repris les rênes de la Commission européenne, la Commission européenne était à peu près dans le même état que l'Église de 1215, c'est-à-dire en piteux état. Et il a réussi, en utilisant la même méthode, à construire ce que nous voyons devant nos yeux et qui est, je ne m'attarderai pas sur le fond, hein, mais sur le principe d'une vérité intangible qui est le néolibéralisme, les principes de liberté absolue, etc., etc. Donc les critères de Maastricht, tout ça. Et c'est là où le bât blesse, c'est que le bon citoyen européen, c'est celui qui accepte tout ça sans broncher. Par contre, celui qui refuse, comme à une époque le peuple grec, hein, alors là, on le menace de tous les maux et on met en pratique. Là, vous avez un exemple contemporain de la corruption des regards qui est extraordinaire.
Là, je pensais justement par rapport à l'Europe, ce traité de Lisbonne qui avait été refusé par référendum par les Français. Voilà. C'est un exemple. Bon, après,
vous avez vu qu'on a passé outre.
Et le président élu, finalement, l'a ratifié.
C'est typique de la corruption de RIA. La direction autoproclamée de ce qui est bien pour l'humanité ou pour l'Europe a décidé que les Français avaient voté, mais que ça n'avait aucune importance. Il fallait qu'on continue, parce que c'était le bien de l'Europe. N'est-ce pas ?
Jean-Louis Clément, cet ouvrage, donc, sera tout un tas de chapitres, d'extraits même, ou de pensées, ou d'anecdotes que vous avez prélevées dans la littérature sur des siècles, avec cette invocation de certains auteurs. Et puis, vous expliquerez certainement, vous argumentez certainement tous ces propos dans ce livre.
J'ai pas puisé dans la littérature. J'ai puisé chez les auteurs. C'est-à-dire ce que j'appelle des auteurs. C'est-à-dire des gens qui ont développer dans leur domaine une liberté de pensée, un sens critique qui les place au-dessus des autres. Voilà. Donc, effectivement, vous avez toute une série de gens que je cite. Par contre, il y a des gens que je cite pour justement leur faiblesse et leur capitulation devant la pensée unique. Mais je dirais, mon livre va un peu plus loin encore. Il y a tout un chapitre qui est extrêmement important sur quelque chose qui nous menace et qui est là un véritable danger pour l'humanité. C'est-à-dire, ce serait même le stade ultime de la corruption des regards, c'est-à-dire le génocide. Et l'Allemagne a été au bord d'y laisser sa peau entièrement. et elle ne s'en est toujours pas remise. Mais le génocide, j'ai beaucoup de respect pour Raphaël Lemkin, qui est l'inventeur du mot, et le mot a été inventé il n'y a pas très longtemps, en 1944. Et donc, il a défini le génocide comme étant un phénomène non seulement de violence effective, par les armes, mais aussi par une violence culturelle. Et là, il a changé complètement la donne. Il ne s'agit pas d'un problème de violence, de degré de violence, mais il s'agit d'une qualité de la violence. Or, je suis allé plus loin maintenant. Je pense que c'est un des caractères originaux de ce livre. C'est que je donne une définition par rapport à l'image du génocide, du phénomène de génocide. Et je pense que le génocide, c'est lorsqu'une société se trouve dépourvue totalement d'image. C'est-à-dire par la censure, par la violence d'une autorité qui a décidé que ça serait ainsi et pas autrement, malgré la volonté d'une grande partie de la population. Et donc, il s'agit à ce moment-là, pour cette population, de rentrer dans un état second, où la société se divise entre les bourreaux et les victimes. Mais les bourreaux et les victimes, à l'origine, sont des amis, sont des connaissances. Mais du fait même de cette omnipotence de la représentation fusionnelle, se divise, se déchire, et on aboutit à ce moment-là à une situation où l'homme n'est même plus un animal. C'est-à-dire que l'homme est prêt à faire les pires bassesses et les pires vilaineries que l'on puisse imaginer. Et c'est lié directement au problème de la corruption des regards, et pratiquement entièrement.
L'art étant le dernier rempart pour vous ?
Le dernier rempart, c'est ce livre, et c'est le sens critique de l'individu. C'est très simple. Tout pouvoir, en France en particulier, est tenu encore à des règles démocratiques, même si elles sont bafouées, même si elles sont chahutées, même si le Parlement ne fait pas grand-chose. Les institutions ont quand même gardé, de 1947 par exemple, des lignes encore démocratiques. Il faut s'y précipiter dedans, il faut les protéger évidemment. Et puis tôt ou tard, on a vu déjà dans l'histoire la corruption des regards éclater. En 1789, le clergé était devenu l'ennemi public, et plus personne n'acceptait cette autorité. Il peut arriver la même chose.
Jean-Luc Clément, ce livre, on peut le trouver sur Die ?
Oui, vous le trouvez dans toute la France, dans toutes les bonnes librairies. C'est-à-dire, on a un code d'accès, donc vous le commandez, sous 24 heures, vous l'avez, quoi.
C'est aux éditions Le Pas de l'Homme.
Le Pas de l'Homme, oui.
Et l'adresse Internet, est-ce qu'elle
non,
est indiquée ?
Non, vous n'avez pas besoin. Hein.
D'accord. Parce qu'il y a un site, hein, lepasdelhomme.com. Voilà.
Non, mais vous avez une référence en bas.
Oui.
Et qui permet à n'importe quel libraire de commander le livre.
Très bien.
Et même, je crois, en Belgique. Voilà.
Et je mettrai la référence. Et puis, de toute façon,
la référence, c'est pour les libraires, quoi.
Oui, oui.
Il suffit d'aller chez son...
Mais il
est en rayon à la librairie de Die.
Hein, Mosaïque, hein, la librairie Mosaïque. Jean-Luc Clément, en tout cas, je vous remercie d'être venu pour nous présenter votre livre « La corruption des regards », édité au Pas de l'Homme. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.